Les raisins de la colère, John Steinbeck. Jadis, la Californie appartenait aux Mexicains et ses terres aux Mexicains. Mais une horde d'Américains, dépenaillés et avides, submergea le pays. Et leur soif de terre était telle qu'ils s'en emparèrent. Après quoi, ces hommes affamés, déchaînés, morcelèrent les terres et se les disputèrent en grognant et en montrant des dents. Et cette terre qu'ils avaient volée, ils la gardèrent, le fusil à la main. Ils construisirent des maisons et des étables, ils travaillèrent le sol et firent pousser leurs récoltes, et ces choses devinrent leur propriété, car possession valait titre. Et leurs enfants grandirent sur ce sol et eurent des enfants à leur tour. À ce moment-là, ils cessèrent d'être tourmentés par cette faim sauvage, dévorante, qui les avait poussés à tout ceci, cette faim de terre, d'eau, de sol fertile sous un plafond de ciel bleu. Et maintenant, les récoltes se chiffraient en dollars. La terre était devenue un capital producteur d'intérêts et les moissons étaient vendues et achetées avant même que la graine ne fût semée. Et tout l'amour qu'ils portaient en eux se desséchait au contact de l'argent. Petit à petit, Les fermes tombèrent aux mains des hommes d'affaires. Elles s'agrandirent, mais diminuèrent en nombre. L'agriculture devint une industrie, et les propriétaires terriens suivirent inconsciemment l'exemple de la Rome antique. Ils importèrent des esclaves, quoiqu'on ne les nommât pas ainsi. Japonais, Chinois, Mexicains, Philippins. « Ils ne mangent que du riz et des haricots, » disaient les hommes d'affaires. « Ils n'ont pas de besoin. Ils ne sauraient que faire de salaires élevés. Et puis si ça leur va pas, on les rembarque. C'est pas plus compliqué que ça. » Sur ces entrefaits, attirés par les mirages de l'Ouest, arriva la masse des expatriés. Du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas, par tribus entières, ils s'amenèrent, chassés de chez eux par l'invasion grandissante des tracteurs. On n'est pas des étrangers, américains, depuis 7 générations. Ils avaient faim et ils devenaient enragés. Là où ils avaient espéré trouver un foyer, ils ne trouvaient que de la haine. Dans les villes et les villages, les commerçants les détestaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent à dépenser. Les citadins, les petits banquiers, les détestaient parce qu'il n'y avait pas d'argent à se faire sur leur dos. Et la population ouvrière détestait ces étrangers parce qu'un homme qui a faim a besoin de travailler. Alors le patron lui paie automatiquement un salaire moindre et par la suite, il n'y a pas moyen d'avoir des plus grands salaires. Des étrangers, tout ça. Ces gars-là, faut les dresser. Sans ça, ils prendraient tout le pays. Tout le pays, ils prendraient. Le soir, les discussions entre étrangers et soudain, un excité. Pourquoi qu'on ne se met pas une vingtaine et qu'on ne prend pas un morceau de terre? On a des fusils, on s'y installe et on leur dit « Allez-y, maintenant, essayez de nous foutre dehors. Pourquoi on ne fait pas ça ?» Et les grands propriétaires terriens auxquels un soulèvement ferait perdre leurs terres, les grands propriétaires qui ont accès aux leçons de l'histoire, qui ont des yeux pour lire, pour reconnaître cette grande vérité. Lorsque la propriété est accumulée dans un trop petit nombre de mains, elle est enlevée. Et cette autre vérité qui lui fait pendant, lorsqu'une majorité a faim et froid, elle prendra par la force ce dont elle a besoin. Et cette autre encore, cette petite vérité criante qui résonne à travers toute l'histoire, La répression n'a pour effet que d'affermir la volonté de lutte de ceux contre qui elle s'exerce et de cimenter leur solidarité. Les grands propriétaires terriens se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre ces trois avertissements de l'histoire.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et je vais animer ou modérer selon cette session. Dans ce beau texte de Steinbeck, nous avons tous les éléments que nous allons retrouver dans le débat, hein, la mondialisation, la naissance des marchés à terme, les révolutions technologiques qu'on retrouve souvent sous les grandes crises financières, la propriété du capital et les questions de répartition. Et tous ces éléments sont dans la crise que nous vivons aujourd'hui, qui est une crise sans pareil. Ça a été la première crise globale. C'est la première fois qu'il s'est passé quelque chose à un bout du monde qui a immédiatement entraîné des répercussions à l'autre bout du monde en l'espace de quelques secondes. Première crise globale, mais en même temps, dans cette crise, il y a plein de précédents. Et le livre qui, pour l'instant, s'impose comme le livre de référence sur cette crise s'appelle « Cette fois-ci, c'est différent ». Et c'est un titre ironique, parce que cette fois-ci, ça n'est pas différent. C'est un livre qui a été écrit par deux économistes américains, qui s'appellent Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, et qui raconte 8 siècles de crise financière, et où il montre qu'il y a toujours les mêmes éléments dans ces crises financières, et bien sûr, à commencer par une accumulation inconsidérée de dettes. Dans cette crise, il y a aussi beaucoup de parallèles avec les années 30, et nous n'avons pas fini d'en parler. Alors pourquoi cette répétition? C'est l'objet du débat et des présentations que nous allons avoir. Je voudrais juste lancer quelques pistes avant de donner la parole aux orateurs. La première explication possible, c'est la question de génération. C'est-à-dire qu'on vit une crise, et puis on a la mémoire de cette crise, on la transmet éventuellement à la génération suivante, mais la génération d'après oublie. Et c'est comme ça que nous avons des crises qui sont des crises qu'on a tous les 50, 60, 70 ans. Et c'est peut-être l'un des éléments d'explication. Un deuxième élément d'explication, c'est peut-être que nous n'apprenons en fait rien de l'histoire. Et moi, j'ai été frappé quand j'ai travaillé sur les années 30 pour essayer de comprendre ce qui se passait aujourd'hui, à quel point les leçons des années 30 étaient souvent fondées sur des idées fausses. On m'avait appris à l'école, par exemple, que dans les années 30, quand il y avait eu la crise, les banques centrales avaient monté les taux d'intérêt. Ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, elles ont commencé par faire exactement l'inverse. On m'avait dit aussi que le protectionnisme était né de la crise financière des années 30, du krach de 29. Et ça n'est pas vrai non plus. Le protectionnisme montait dans les années 20 et il était une conséquence des problèmes agricoles liés à la guerre de 14-18. Donc j'ai l'impression en même temps que parfois, ces leçons n'existent pas. La troisième explication de cette capacité à répéter, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est intrinsèque à la finance. Et ça, on va en parler, hein. La finance est un milieu assez bizarre où les lois de l'économie ne fonctionnent pas pareil, hein. Quand les prix montent, au lieu de faire baisser la demande, parfois, ça la fait monter aussi. Et donc, on est dans des phénomènes d'emballement. Et donc, est-ce qu'on a quelque chose qui est intrinsèque à la finance? Et la quatrième explication que je voulais vous proposer, c'est que c'est dans ce qui se passe dans la finance et dans cette répétition des crises, il y a des choses qui sont intrinsèques à l'homme lui-même, peut-être. On va parler sans doute de l'avidité, et je laisse ça en suspens. Pour en parler, nous avons trois spécialistes, des économistes et des historiens. C'est André Orléans qui va commencer, lui est économiste, spécialiste d'économie financière, il est directeur de recherche au CNRS et d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a publié un petit livre l'an dernier, mais qui est très dense et dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « De l'euphorie à la panique ». Je pense qu'il est même téléchargeable gratuitement, même s'il ne faudrait pas le dire.
À fait légal.
Livre très, très, très riche. Ensuite, parlera André Strauss, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et qui est aussi actif à Paris 1. C'est un spécialiste de l'histoire et de l'histoire financière, plus précisément. Et puis enfin, Pierre-Cyril Hautecoeur, qui est historien et aussi un peu économiste, il faut le dire, qui est directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi professeur à ce qu'il est convenu d'appeler désormais Paris School of Economics. Et donc, je donne d'abord la parole au premier André pour nous apporter ses éclairages.
Merci. En effet, le titre est bien choisi, crise financière, les leçons de l'histoire, car il est vrai qu'en matière financière, peut-être de manière encore plus illustrative que dans d'autres domaines de l'économie, le caractère répétitif des crises s'impose à l'observateur. On peut dire que dès lors que la finance de marché a existé, en particulier donc à partir du XVIIe siècle en Hollande, on a commencé à avoir des crises financières. Donc il y a bien quelque chose, et ensuite toute l'histoire du capitalisme est marquée par des crises bancaires, des crises financières, et donc il y a un aspect tout à fait récurrent, tout à fait fondamental, et ça pose un problème à l'analyste, car il faut arriver à trouver une explication qui soit au niveau de cette récurrence. Donc personnellement, je vais soutenir ici l'idée qu'il y a quelque chose d'effectivement d'intrinsèquement instable, qu'il y a des phénomènes psychologiques, sociologiques qui sont à l'œuvre, mais que d'expliquer un phénomène aussi récurrent, de manière aussi massive, nécessite un autre mobile. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est propre à la finance, comme il vient d'être dit, qui conduit à cette instabilité, ce que montrent bien justement ces leçons de l'histoire et cette instabilité récurrente. Le deuxième point, la deuxième récurrence, à part les crises elles-mêmes, c'est leur structure. À vrai dire, il existe beaucoup de formes de crises. Quand on parle de crise financière, il y a des crises de marché financier, par exemple comme la crise, il y a une crise du marché financier américain en 1987 qui a été juste localisée sur le marché financier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des crises qu'on dit systémiques, c'est-à-dire des crises qui ne touchent pas simplement, qui ne sont pas localisées au marché financier, mais qui vont toucher aussi un élément clé de la structure financière, qui sont les banques. Et donc c'est ce type de crise qui va ici nous intéresser parce que c'est celle qu'on a sous les yeux. Et donc je disais, le deuxième point, c'est qu'il y a une structure commune dans l'ensemble de ces crises. C'est ce que effectivement Reinhardt et Rogoff ont retrouvé aujourd'hui. C'est ce que aussi un grand économiste qui est Kindleberger avait déjà mis en avant, c'est cet aspect de systématicité. Il avait mis au point un modèle pour penser l'ensemble des crises de l'histoire, des crises financières. Un même modèle qui permettrait de comprendre ces crises. Quels sont les traits généraux, en un quart d'heure, quels sont les traits généraux de ce modèle? Au fond, ils sont assez simples à comprendre. C'est une période d'euphorie suivie d'une période de krach. Donc on a ce mouvement d'euphorie et ce mouvement de krach, et c'est ça, au fond, qui est au cœur des crises financières. Et de ce point de vue-là, la crise des subprimes a tout à fait une structure classique. Elles commencent par quoi? Quelles sont ces périodes d'euphorie? Eh bien, elles ont trait à certains actifs dont on voit le prix augmenter de manière démesurée. On parle dans ce cas-là d'une bulle. En l'occurrence, la bulle centrale dans la dernière crise, c'était la bulle immobilière. Dans d'autres cas, ça a pu être des bulles boursières ou des bulles d'autres natures. C'est souvent les bulles immobilières parce qu'elles ont un impact, après, elles ont un impact beaucoup plus fort. Donc le premier point, c'est cette existence d'une euphorie de prix qui augmente de manière démesurée, par exemple dans notre cas une bulle immobilière, donc le prix des immeubles. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un retournement. Le deuxième schéma, c'est l'intervention des banques pour financer cette bulle, et donc elles-mêmes vont commencer à s'endetter. On parle dans ce cas-là d'un effet de levier, c'est-à-dire qu'elles vont emprunter pour prêter beaucoup, et elles vont se retrouver dans une structure de bilan qui est instable, parce que elles vont emprunter souvent à court terme nominalement des titres en euros ou en dollars, alors qu'elles vont avoir des actifs dont la valeur va dépendre des prix de l'immobilier. Donc il y a là une structure qui peut potentiellement amener à des problèmes, et le retournement, c'est justement quand ces problèmes se apparaissent, ou par exemple les titres vont baisser de manière très très forte, les banques vont avoir des difficultés, il va avoir ce qu'on appelle une course à la liquidité, les acteurs vont plus du tout vouloir avoir des actifs risqués, vont se reporter sur des actifs sans risque, par exemple les titres publics ou la monnaie, et ça va mettre la structure d'endettement des banques dans une situation impossible, parce qu'elles ne trouveront plus à s'endetter, personne ne voudra plus leur prêter. Donc c'est ça un peu le mécanisme que vous connaissez, général, et au fond c'est vrai qu'il permet d'expliquer assez bien l'ensemble des crises financières. Du point de vue du théoricien de l'économie, ce qui frappe dans cette structure, c'est qu'en effet, comme il a été dit, qu'elle, au fond, elle s'oppose à une idée tout à fait classique en économie et tout à fait importante, qui est l'idée de l'autorégulation concurrentielle. L'idée que, au contraire, les mécanismes concurrentiels, tels qu'on nous les a enseignés depuis Smith et Ricardo, ont justement pour propriété cardinale d'interdire de ce qu'il y ait des mouvements excessifs de prix, de faire en sorte que les prix correspondent à la vraie valeur des objets, des chaises, des tables, etc., et qu'ils ne puissent pas avoir des envolées de prix. Donc le point de vue théorique, c'est ça, c'est pourquoi, à mon sens, c'est pourquoi la concurrence financière n'a pas les propriétés, comme on a dit d'ailleurs à l'instant, n'a pas les propriétés de la concurrence sur les biens ordinaires. Et à mon sens, c'est vraiment là le nœud du problème. On dirait en termes techniques que dans la sphère financière, on est dans un système qu'on dit à rétroaction positive. Le système stable, c'est un système à rétroaction négative. J'explique ce terme barbare, mais qui permet de bien comprendre la nature du phénomène. La concurrence est à rétroaction négative et donc stabilisante quand, lorsqu'un prix augmente, elle crée des forces qui tendent à faire que le prix aille dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on dit que les rétroactions sont négatives. De ce point de vue-là, les systèmes stables ont cette propriété. Si vous prenez un balancier, vous le mettez hors de sa position d'équilibre, en l'air, eh bien les forces gravitationnelles le ramènent à sa position d'équilibre, justement, à travers ce phénomène de rétroaction négative. Et donc, le cœur de la rétroaction négative en matière économique, c'est le fait que quand le prix augmente, en effet, la demande baisse. Et comme la demande baisse, alors vous demandez moins et vous allez essayer d'avoir d'autres produits. Et ça, c'est le mécanisme d'équilibration fondamental de l'économie, celui qu'on utilise tout le temps quand on met en avant la concurrence. La concurrence, c'est cette propriété d'avoir des rétroactions négatives. Le propre du système financier, c'est de fonctionner à des rétroactions positives. Et c'est ça qui est surprenant et c'est ça qu'il faut expliquer. Donc quand, par exemple, dans la bulle des subprimes ou dans la bulle de l'immobilier, lorsque les prix de l'immobilier ont augmenté, ça n'a pas engendré ces forces qui auraient conduit à faire qu'on achète moins d'immobilier ou qu'on achète moins, si c'était des titres, moins de titres, de façon à faire revenir les prix à l'équilibre. Ou bien, lorsque les prix ont été très bas dans la phase de crack, on n'a pas vu s'exprimer une demande soudaine pour les produits titrisés qui aurait permis d'éviter l'effondrement des prix et la nécessité d'utiliser la puissance publique pour acheter ces titres dont personne ne voulait pas. Donc, constamment, c'est ça qui est en cause. Dans les périodes de baisse, on a ces phénomènes de cumulatifs. Par exemple, vous prenez au moment de la bulle financière, quand le prix de l'immobilier augmente, les acteurs qui possèdent de l'immobilier sont potentiellement plus riches, puisque leur titre, leur possession a augmenté de valeur, ce qui leur permet de s'endetter plus. Et c'est la même chose du côté des banques. Les banques vont effectivement, lorsqu'elles vont prêter, puisque le collatéral, la garantie, qui est la valeur des actifs, a augmenté, elles se trouvent potentiellement plus riches, et donc elles vont avoir tendance à prêter plus. Et ce phénomène, elle prête plus, entraîne que les prix continuent à augmenter, entraîne que la valeur des collatéraux augmente, et on a ce même mécanisme. Par contre, à la baisse, lorsque les prix baissent énormément, on voit les acteurs bancaires, comme ça a été le cas, essayer de se désendetter absolument de façon à pouvoir restituer leur bilan, et ce phénomène de désendettement conduit à un approfondissement de la baisse de prix. Donc on est bien d'accord, au fond, ce qui est la marque des phénomènes d'instabilité financière, c'est ces rétroactions positives qui jouent aussi bien à la hausse dans la période d'euphorie que dans la période de crack. C'est pour ça que c'est une hypothèse assez intéressante, parce qu'elle est économe. Elle permet de comprendre à la fois la période de hausse et la période de baisse. Et je reviendrai sur le point du retournement. Fondamentalement, il me semble que ce qui est en cause dans cette instabilité, c'est le fait que quand un titre voit son prix augmenter, eh bien, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a plus de demandes alors que son prix augmente ? Évidemment, ça paraît un peu bizarre par rapport à la rationalité la plus classique, on se dit quand le prix de quelque chose augmente, eh bien on a tendance à essayer d'aller voir ailleurs, on en achète plus. Mais il y a une caractéristique propre des actifs, de cette forme générale d'actifs financiers dans laquelle je mets aussi bien l'immobilier que les matières premières, etc. C'est que lorsque leur prix augmente, ceux qui les possèdent, ces titres, font beaucoup de rendement, puisqu'ils gagnent des plus-values, ils gagnent de la valeur en capital. Lorsque le prix de l'immobilier augmente, celui qui est propriétaire gagne de l'argent. Et quand le prix des actifs de la bulle Internet augmente, ceux qui étaient propriétaires des start-up voient leur capital augmenter. Ils font beaucoup de rendement. Et donc, cette augmentation du rendement crée évidemment dans la masse des investisseurs une tendance à essayer d'obtenir aussi ces rendements, d'aller dans cette sphère où il y a des rendements élevés. Donc c'est ce mécanisme tout à fait central qui fait que lorsque le prix augmente pour ce type d'actifs, eh bien les acteurs ont tendance à essayer d'en acheter plus pour essayer eux aussi d'obtenir le même type de rendement que les autres ont obtenu dans le passé. Donc c'est ce mécanisme-là qui joue à la fois à la hausse et qui joue à la baisse et qui explique ce caractère de rétroaction positive et qui fait qu'elle a une instabilité cruciale. Pour le dire autrement, il y a une grande différence entre comme vous le savez et on peut le redire, entre les marchés de biens ordinaires et ces marchés dont on parle, les marchés d'actifs, c'est que sur les marchés de biens ordinaires, vous les achetez à des fins d'utilité, vous les achetez pour les consommer. Et donc la question de leur rendement ne se pose pas du tout, c'est pas ça, leur rendement c'est simplement leur utilité. Donc on voit bien que c'est une structure très différente de ces structures où vous achetez en grande partie justement dans l'idée de revente ou dans l'idée d'un prix futur qui va vous permettre de vous enrichir. Donc on voit qu'on est dans des structures en fait très différentes et au fond sur quoi on peut s'interroger, c'est sur l'idée qu'on aurait pu transposer le même système de concurrence des biens ordinaires aux biens financiers, alors qu'il semble bien qu'il y ait des différences tout à fait frappantes. L'autre différence, d'ailleurs, notez-le, c'est que leur structure même est très différente. Sur un marché de biens ordinaires, vous avez des offreurs et des vendeurs. Et les offreurs, c'est donc les producteurs, les vendeurs, c'est les consommateurs. Et leurs intérêts sont opposés. Les offreurs veulent des prix élevés et les vendeurs veulent des prix bas. Et on comprend assez, du point de vue d'une intelligibilité générale de ces phénomènes, qu'il y a un prix d'équilibre entre deux forces qui sont contradictoires. Et donc l'idée d'un balancier de force, au fond, s'impose assez rapidement à l'esprit. Sur un marché comme des marchés de titres financiers, il n'en est pas du tout de la même manière, parce que ce sont des marchés dans lesquels on s'échange des titres qui sont déjà ennemis, par exemple si on prend les titres boursiers. Et donc il n'y a pas des acheteurs face à des vendeurs. Sur un marché de titres ou sur un marché de devises, structurellement, les acteurs sont à la fois vendeurs et acheteurs. Il n'y a pas d'intérêts fondamentaux qui les opposent en tant qu'acheteurs et vendeurs. En fait, on comprend qu'il y a une espèce de il y a une force consensuelle. Au fond, leurs intérêts, quelque part, à long terme, ne sont pas contradictoires. Ils essayent tous d'avoir la meilleure rentabilité. Donc, tous ces points pour bien noter comment ce sont des marchés de nature très différente et dont on comprend que les caractéristiques de la concurrence peuvent être très différentes. Et je crois que donc la structure fondamentale de l'instabilité est dans cette structure. Le deuxième point, c'est le retournement. Alors, il y a un point qui paraît, il y a une interrogation qu'on a le plus souvent quand on regarde ce type de phénomène, c'est pourquoi, alors que c'est ce qu'on appelle l'aveuglement au désastre, pourquoi lorsque les prix ont augmenté, par exemple dans l'immobilier ou dans la bulle Internet ou dans tous les mécanismes d'euphorie qu'on a connus, c'est toujours le même. Pourquoi personne ne s'en est rendu compte? Pourquoi il n'y a pas de... il y a ce qu'on appelle cet aveuglement au désastre. Donc un des points, effectivement, c'est l'idée de l'oubli, qui est un oubli. Je pense qu'en effet, ce phénomène joue. Mais je crois qu'il y a un autre phénomène qui est plus important. C'est que... nous, ça nous paraît aujourd'hui évident a posteriori que les prix étaient trop élevés. Mais si vous regardez ce que disent les acteurs pendant la période, ils ne se rendent pas compte. Donc c'est même ça, l'aveuglement au désastre. Ils ne se rendent pas compte. La preuve, c'est qu'il y en a qui continuent à acheter à ce prix-là et que ça augmente. Pourquoi ils ne se s'en rendent pas compte? il faut quand même comprendre que le problème est assez difficile pour eux. Parce que qu'est-ce que c'est que la valeur de ces actifs ? C'est ça qui est difficile à, c'est difficile à mesurer par nature. Par nature, la valeur d'un actif renvoie, qu'est-ce que c'est qu'un actif ? C'est un droit, en général, c'est un droit sur des rendements futurs. C'est un droit, si vous prenez une action, donc c'est un droit sur des dividendes, une obligation, c'est des taux d'intérêt, des crédits, c'est des remboursements. C'est toujours un droit sur quelque chose qui arrive dans le futur. Donc, la valeur d'un actif renvoie nécessairement à une évaluation qui porte sur le futur. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'on ne sait pas, évidemment, de quelle nature va être le futur. Il y a ici une incertitude dans l'évaluation qui est extrêmement forte, qui fait que les acteurs ne savent pas très bien ce qui va se passer et que, par exemple, pour ce qui est de la bulle Internet, ils pouvaient penser qu'à cause de la révolution technologique, on allait connaître des prix très, très élevés. Donc, il y a là une difficulté massive qui est propre aussi à la finance, c'est l'incertitude fondamentale sur l'évaluation. Et pour que nourrir, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est pour nourrir l'aveuglement, un point est très important dont on va parler par la suite, c'est la question des innovations. Parce que une des choses qui nourrit l'aveuglement, c'est de pouvoir dire, comme l'explique Reinhardt et Rogoff, que cette fois-ci, c'est différent. Il faut pouvoir mobiliser cet argument pour rendre légitimes des évaluations qui semblent délirantes. Et ce qu'on retrouve dans toutes les crises, c'est effectivement cette idée que les acteurs peuvent dire « cette fois-ci, c'est différent ». Quand on vient leur dire « mais attendez, vous voyez, ça a augmenté de 200%, c'est absurde », à chaque fois, les acteurs peuvent mobiliser à ce moment-là un argumentaire en disant « ah mais non, cette fois-ci, c'est la bulle Internet, cette fois-ci, c'est la titrisation, cette fois-ci, etc. » Dans tous les cas, on trouve cette idée, qu'on mobilise l'idée que cette fois-ci, c'est différent, ou comme le disait Robert Schiller, un autre économiste, l'idée qu'il y a, on est dans un nouveau paradigme, donc que les choses auraient changé. Donc, c'est vrai qu'il y a un contenu, je dirais, épistémique dans la crise financière, à côté des mécanismes, qui est lié à cette incertitude, et il y aura d'autant plus facilement de crise financière, d'une certaine manière, que les acteurs seront légitimes à dire cette fois-ci c'est différent, et donc on peut justifier des prix aussi élevés, d'où le rôle des innovations pour légitimer ce type d'analyse. Merci.
Merci. Donc vous avez eu le regard d'un économiste, d'un théoricien de l'économie. Maintenant, on va voir le regard d'un historien à vous, l'autre André.
Merci.
C'est bon.
Merci. Je voudrais effectivement essayer de réfléchir un tout petit peu sur le titre des leçons de l'histoire, parce que je ne pense pas que l'histoire ait de leçons à donner aux gouvernants ni aux hommes d'affaires. Ce n'est pas le métier. Le métier de l'historien, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ceci dit, je ne pense pas que ça soit complètement inutile, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose du côté des historiens qui leur permettrait de prévoir, de prédire ou de conseiller. Deuxième point, l'historien économiste a une position un peu compliquée, parce que comme historien économiste, il lui faut, pour trouver des explications, arriver à déceler des régularités dans le passé. Comme historien, depuis Ovide et Vico, on sait bien qu'il n'y a pas de retour en arrière, si bien que l'histoire, c'est toujours l'histoire de quelque chose qui ne se passera pas deux fois. Alors, il y a là un tiraillement un peu compliqué entre le désir de trouver des régularités et le fait de savoir que ces régularités, si on en trouve, elles seront limitées dans le temps, elles seront approximatives, et qu'il faudra essayer de trouver à quel moment est-ce qu'on change de type de régularité. Ça, c'est assez compliqué. Alors, c'est important dans le problème des crises et le problème des cycles, qui lui est quand même lié dans une certaine mesure. Je voudrais prendre la formule d'Ernest Labrousse disant les structures ont les crises de leur conjoncture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, suivant l'évolution structurelle, des types de cycles qui ne sont pas les mêmes et qui ne donnent pas de manière évidente le même type de crise financière. Alors, je ne m'oppose pas du tout à ce que vient de dire mon collègue André Orléans. Il y a des mécanismes, et des mécanismes collectifs en particulier, des mécanismes psychologiques qui peuvent intervenir pour expliquer des mouvements de spéculation et des mouvements de retour en arrière, comme il l'a bien décrit. Ceci étant, je voudrais, moi, prendre un exemple, qui est l'exemple du 19e siècle, où on passe d'un type de structure à un autre, où les cycles changent et les crises économiques et financières prennent une allure différente. Alors, je voudrais simplement donner un exemple. On a souvent mis en relation les crises financières avec des problèmes d'innovation. Et Jean-Marc Ettori en a parlé tout à l'heure. On a souvent mis l'accent sur le rôle dans les cycles des innovations technologiques. On parle aussi d'innovation en termes de produits financiers. On parle moins d'innovation en termes d'institutions ou de marchés. Or, je voudrais prendre l'exemple pour le 19e siècle, pour illustrer l'évolution de la conjoncture et des structures, de la constitution lente et progressive d'un marché de l'escompte en France, qui est passé par la création, avec des allers-retours d'ailleurs, des retours en arrière, j'ai dit que ça n'existait pas, mais avec des échecs, disons, de nouvelles institutions bancaires, et qui ont donné finalement lieu à la constitution d'un système financier hiérarchisé, dominé à la fin du siècle par la Banque de France, en cas de la France, et qui a modifié considérablement pendant presque un demi-siècle la nature des crises financières et la manière dont l'économie a pu s'en sortir. Alors, dernière remarque, le terme financier est un terme un peu flou. Est-ce qu'on parle de crise monétaire ? Est-ce qu'on parle de crise boursière ? Est-ce qu'on parle de crise bancaire ? Je voudrais juste mentionner, mais je n'aurai pas le temps de développer cet aspect, que si on regarde des institutions financières qui sont les plus grosses institutions financières actuelles, ce sont les assurances, apparemment elles n'ont pas connu dans l'histoire le même type de crise. Les cycles de l'assurance ne sont pas des cycles comparables aux cycles du crédit. Et il y a là quelque chose qui montre qu'il y a une hétérogénéité lorsqu'on parle de la finance. Quatrième et dernière remarque, parce que c'est que vous connaissez bien la théorie des cycles, qui parle des cycles courts, Juglar à partir surtout de son ouvrage de 1862. Ensuite, on est passé doucement vers la fin du siècle à la prise en compte, à l'appréhension des mouvements longs, que je n'appellerai pas des cycles Kondratiev. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois important de voir que ces grandes ruptures de 20 ou 30 ans correspondent à des changements du centre de gravité de l'économie internationale. Et je pense que cette dimension spatiale est une dimension qu'aujourd'hui en particulier, et pendant les 10 ans qui viennent, on a intérêt à prendre en compte. Ce n'est pas nouveau. Lorsqu'on est passé d'une économie de l'Europe du Nord et centrée autour de la Manche et de l'Angleterre, de la Belgique et de la France, à une économie atlantique, puis d'une économie atlantique vers le Pacifique, et maintenant plus nettement encore sur la Chine ou sur l'Inde, il y a là incontestablement quelque chose qui s'explique, qu'on peut expliquer, ce n'est pas simplement un constat, mais qu'il importe de prendre en compte et qui fait qu'on ne peut pas comparer complètement les périodes, on ne peut pas parler de la même façon de la première globalisation des années 1880-1914 avec celle des années 1980 jusqu'à nos jours. Les choses ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, les plus gros pays endettés, ce sont les États-Unis et un certain nombre d'autres pays industrialisés. Les pays qui prêtent, ce sont les pays en développement, alors que dans la première globalisation, c'était les pays industrialisés qui exportaient leur épargne vers les pays en développement. Et donc, les choses ne sont jamais vraiment les mêmes. Alors, je reviens donc au XIXe siècle et au problème de la constitution d'un marché de l'escompte entre les années 1815-1820 et les années 1870-80. Quand je dis construire un marché de l'escompte, c'est important parce que c'est quoi ? Ça dicte la circulation de l'argent. Or, si on parle de crise financière, on parle d'argent. Il n'y a pas de crise financière quand il n'y a pas d'économie monétarisée. La circulation de l'argent, elle n'est pas évidente en tant que telle. Il faut d'abord qu'il y ait une unification monétaire. Ça se fait lentement en France, avec la constitution de banques d'émission, puis le monopole de la Banque de France, mais ça se fait lentement. Les marchés du commerce de l'argent à court terme sont géographiquement restreints pendant longtemps. Je vais vous donner un seul exemple. En 1828, le taux de l'argent à court terme, sur la place de Paris, c'était 3,5%. Dans les bourgs de l'ouest ou du centre, ça montait jusqu'à 9 et 10%. Donc, évidemment, c'est un frein à tout ce qui peut sembler une, entre guillemets, régulation de l'argent à un niveau national. Si bien que la constitution d'un marché national va passer par la création d'institutions qui vont petit à petit permettre non pas de créer de la monnaie, non pas d'offrir du crédit, sinon à la marge, mais de mobiliser les ressources qui existent. Ça va être le rôle de différentes institutions, en particulier initié par les marchands banquiers, la haute banque parisienne du début du XIXe siècle, qui fait de l'acceptation, qui fait un peu d'escompte, mais qui trouve dangereux la transformation. Donc elle cherche à créer des maisons qui font de l'escompte, d'où la création de caisses de crédit, d'où la création de caisses d'escompte. La Banque de France et la création de la Haute Banque parisienne. Sur les 103 régents de la Banque de France entre 1801 et 1890, le tiers sont des représentants de la Haute Banque. Donc il faut bien voir là ce besoin qu'ont les banquiers de créer des institutions qui les soutiennent et qui les aident. Le résultat, pour être rapide, c'est que les crises financières de la première moitié du XIXe siècle diffèrent grandement de celles qui se passent entre les années 1860 et 1882. 1882, je le donne comme terme final à cause du krach de l'Union Générale qui a vu la première fois jouer de manière importante les banques françaises dans le cadre d'une crise avec un système bancaire et l'existence d'une hiérarchie dominée par la Banque de France. Les crises de la première moitié du XIXe siècle sont des crises qui sont des crises liées à l'interruption du crédit, liées justement à cette absence de marché de l'escompte. En 1828-30, en 1848 plus tard, il y a effectivement là interruption des circuits parce que les banquiers se sont trop avancés, les banquiers qui faisaient d'abord de la participation en faisant de l'escompte, lorsqu'il y a une rupture dans la chaîne des paiements, eh bien se trouvent incapables d'avoir recours à d'autres institutions. D'où donc ces innovations bancaires dont j'ai parlé. Parmi les innovations les plus importantes, incontestablement, quelquefois on a donné le nom de révolution bancaire à la création des banques de dépôt en France à la fin des années 1850, enfin dans les années 1850-1860. Bien entendu, il y avait eu d'autres actions, d'autres innovations dont je ne vais pas parler maintenant, on ne peut pas parler de tout, notamment avec le crédit immobilier, qui a eu d'ailleurs, comme banque mixte, beaucoup plus de succès à l'étranger, et a été copié à l'étranger, plus qu'en France. Pour des raisons, peut-être, d'avoir été en avance sur leur temps, dans un esprit saint-simonien qui n'était peut-être pas adapté au développement structurel de l'économie française, qui restait en grande partie une économie agraire et rurale. Les banques de dépôt ont donc trouvé cette idée qu'on pouvait effectivement essayer de ramasser les dépôts qui se trouvaient dans les campagnes, dans les bas de laine, les payer le moins cher possible et prêter de l'argent, utiliser ces ressources pratiquement comme on faisait avec les fonds propres. C'est ce qui s'est passé au début jusqu'au moment où effectivement les banques de dépôt, notamment le Crédit Lyonnais, ont commencé à faire toute une série de très mauvaises affaires liées à la transformation. Ils se sont rendus compte que prêter à l'industrie à très long terme, alors qu'on était à la merci d'un run bancaire, c'était compliqué. Si bien que rapidement, dans les années 1880, ces banques de dépôt vont finir par faire essentiellement du crédit commercial à court terme, laissant aux banques mixtes qui restaient, aux crédits fonciers, à quelques organismes suscités par l'État, puis aux banques d'affaires vers la fin du siècle, le rôle d'aider de manière plus systématique l'industrie. Mais la création de ces banques de dépôt, qu'on appelle quelquefois les banques à guichet, ont permis la constitution d'un marché de l'escompte et l'unification du loyer de l'argent au niveau national. Le résultat de cette unification et de la mobilisation des épargnes, ça a été qu'à partir des années 1860-1880, les crises ne viennent plus de rupture dans la chaîne du crédit, mais elles viennent de la surabondance de l'argent. Il y a trop de ressources, et les ressources financières vont donner lieu à des mouvements spéculatifs qui vont être relativement importants. Je n'en citerai que deux. Le krach de 1877 de la banque franco-hollandaise du groupe Philippard, lié au chemin de fer, à la fin de la construction des chemins de fer sur la ligne secondaire. Et le second, sur lequel je vais insister un tout petit peu plus, parce que nous sommes à Lyon, qui est le krach de l'Union Générale, qui se produit en 1881-82. Alors, ce krach de l'Union Générale, il provient dans une phase de cycle qui est compliquée. Normalement, le cycle jugular, entre guillemets, aurait dû s'arrêter dans les années 78-80. Or, il se trouve que sous la pression, notamment des maîtres de forge, mais pas seulement, on a demandé à ce qu'il y ait des aides sous forme non pas d'aide financière, mais sous forme de commandes adressées par les pouvoirs publics. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle les travaux du plan Fraissinet, à partir de 1878, qui ont été financés par les pouvoirs publics grâce à des emprunts. Ce mouvement a donné lieu à une flambée de création de sociétés, et notamment de sociétés financières profitant de l'abondance des ressources. Parmi ces sociétés financières, parmi ces banques de dépôt, une banque parisienne, mais dont les attaches étaient lyonnaises, c'est l'Union Générale. L'Union Générale et son krach sont tout à fait ordinaires, si on veut. C'est ce que André Orléans a décrit, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un retournement, et ce retournement est un retournement cumulatif. Pourquoi prend-il lieu là exactement? Il prend lieu, et c'est là où c'est intéressant par rapport aux banques de crédit, aux banques de dépôt, parce que le financement de la spéculation s'est fait grâce aux prêts en report
des grandes banques de dépôt, et qu'à un certain moment, les banquiers ont pris peur. Donc ils coupent le robinet des reports. Et coupant le robinet des reports, ça pousse les opérateurs sur le marché à liquider leurs positions. Donc ceci a eu des conséquences très importantes. La Banque de l'Union Générale a disparu. Il y a eu crainte d'une crise systémique à cette époque-là. Et c'est la première fois dans la deuxième moitié du XIXe siècle où la question est posée. La Banque de France, à ce moment-là, réunit les principaux banquiers de la place de Paris, dont les Rothschild, ennemis de l'Union Générale, qui réunissent des prêts de façon à lui permettre de passer un cap et surtout d'éviter que la panique ne gagne l'ensemble des marchés boursiers, sauf le parquet de Lyon qui disparaîtra à l'occasion. Mais disons qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment vu un intérêt de place intervenir. On veut bien couler la Banque de l'Union Générale, mais on ne touche pas au reste. Donc cet exemple-là montre qu'entre un début du XIXe siècle, où l'argent manquait par insuffisance d'une circulation de l'argent à travers un marché d'escompte, et la mobilisation des épargnes à travers des innovations bancaires, les crises ont changé de nature et deviennent cette fois-ci beaucoup plus des crises de spéculation boursière systémique, jusqu'au moment où effectivement les banques centrales et la Banque de France en particulier vont trouver que c'est le moment où on ne peut pas faire autrement que d'agir. Je vous remercie.